Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invitée de Pluriel est Julie Garnier, conseillère régionale d'Île-de-France, oratrice nationale de LFI, référente de la France Insoumise en Seine-et-Marne et conseillère municipale de Moissy-Cramayel. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce dimanche a eu lieu le premier meeting de Jean-Luc Mélenchon depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Vous étiez à ses côtés, à Saint-Denis. Un meeting en plein air dans la ville dirigée par Bali Bagayoko, près de la basilique Nécropole des Rois. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier meeting à moins d'un an de l'élection présidentielle ?
Une démonstration de force. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un lancement exceptionnel. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de forces politiques qui soient capables de faire une telle démonstration, un tel rassemblement. On compte 26 000 personnes. Sans compter ceux qui ont suivi aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'était retransmis en direct. Mais je crois que vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un vrai lancement de campagne, d'une campagne qui est solide, qui est carrée, comme on aime dire, parce que le programme est là, les idées sont là, le candidat est là. Donc ça peut être qu'une affaire qui peut aller très loin.
Alors Jean-Luc Mélenchon a notamment déclaré que la primaire est finie. Vous souhaitez que les autres candidats de gauche renoncent à se présenter et rejoignent votre candidat ?
Il faut comprendre le moment dans lequel on est. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Jean-Luc Mélenchon a commencé par là, a commencé par dire dans quel contexte on se trouvait. On est à un moment historique, et le moment historique veut qu'on se pose les questions de l'efficacité. On est face à un suprémacisme, on est face aux pires dérives du néolibéralisme. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Et on constate que dans la sphère de gauche, certains se posent des questions entre eux. Et il y a la France insoumise qui parle déjà au monde, au peuple. Et bien, je crois qu'il faut prendre toutes les forces qu'on a. Et la plus grande force aujourd'hui, ça a toujours été ce programme. Ça a toujours été ce programme parce que même quand il y a eu des alliances précédemment, que ce soit le NFP ou la NUPES, la base a toujours été le programme sur lequel la France insoumise a travaillé. Donc je pense qu'il faut repartir de là. Et parce qu'il y a une urgence, parce qu'en face, on a des véritables défis. On a aussi le défi climatique. Et donc, il faut pas perdre de force, il faut vraiment se mettre à la hauteur des enjeux. Et la hauteur des enjeux, c'est ça, c'est regarder qui est parti, qui a le matériel pour en fait gouverner le pays. Je crois que de toute évidence, ou alors je n'ai pas trouvé d'argument qui pourrait me démontrer que ça se passe ailleurs qu'à la France insoumise.
Alors, on connaît beaucoup de visages de la France insoumise. Bali Bagayoko, qui a véritablement émergé ces derniers mois, mais évidemment, Manuel Bompard, Clémence Guettet. C'est une nouvelle génération, c'est ça aussi la nouvelle France ?
On fait tous partie de cette nouvelle France. La nouvelle France, en réalité, elle n'exclut personne. La nouvelle France, c'est tous ces nouveaux visages, toute cette nouvelle génération qui est là, qui a envie d'un autre monde, finalement, qui a envie d'avoir sa place, qui a envie de le faire, en fait, pour, voilà, avec des valeurs qu'on ne veut plus voir à ce point piétiner. Les valeurs de la solidarité, de l'égalité, de la solidarité, de la fraternité, sororité. Tout ça, ce sont des choses voilà, qu'on a appris dans nos livrets d'histoire, mais qui aujourd'hui sont tellement mises à mal quand on voit l'accaparement des richesses par une toute petite poignée, quand on voit que le nombre d'enfants qui dorment dehors ne fait qu'augmenter. Toutes ces inégalités qui nous entourent, à un moment, ça doit suffire. On peut faire autrement. On a été capable dans notre histoire de faire autrement, eh bien, montrons que demain peut être aussi autrement.
Julie Garnier, Saint-Denis est une ville populaire, métissée, et le public qui était là pour écouter Jean-Luc Mélenchon a répondu « on est chez nous ». Ce qu'on entendait habituellement dans les meetings du Rassemblement National, vous avez repris le slogan, mais pour vous, il veut dire autre chose.
Bien évidemment. On est chez nous, c'est justement ce que je disais. On a tous notre place ici. Et c'est une place qui a révolutionné finalement parce que les aînés, on l'a dit pendant, Jean-Luc Mélenchon l'a dit pendant le meeting, les aînés sont plus nombreux. Les jeunes sont aussi plus nombreux, ils sont plus éduqués, ils ont plus facilement accès à tout ce qui est de connexion, de réseau. Donc on voit que cette nouvelle France, c'est vraiment un nouveau visage. Et il faut garder des principes de base. Et le principe de base, c'est la liberté à disposer de soi-même. Et pour chaque génération, pour chaque personne, ça répond à un enjeu. Pour les aînés, par exemple, la liberté de disposer de son propre corps, bah, c'est vouloir vieillir chez soi. C'est vouloir poursuivre sa vie comme on l'entend. Et bien, rien que ça, pour nos aînés, c'est aussi un défi. Pour les jeunes, pouvoir choisir son avenir quand on est face à Parcoursup, c'est aussi un défi. Donc on voit que chaque personne, et je ne parle pas encore des égalités entre les sexes ou encore de liberté de genre, donc pour chaque personne, cette liberté, ces principes, finalement résonnent dans quelque chose et c'est là où il faut être en capacité de proposer.
Alors Julie Garnier, qu'est-ce qui va changer concrètement dans un an, si Jean-Luc Mélenchon est élu président, dans la vie des gens? Est-ce qu'il va démarchandiser la vie, pour reprendre une expression de Boris Vallaud? Je pense aux EHPAD, aux crèches.
Les crises que nous traversons appellent à des réponses profondes, pas à des gadgets. Et donc là, je mets un signal d'alerte, il va falloir véritablement se poser les bonnes questions pour pouvoir avoir derrière les bonnes réponses. On est dans une politique aujourd'hui, dans un système économique qui nous entraîne, qui nous précipite quelque part dans une folie, que ce soit avec les pesticides, la suralimentation, la surconsommation, le suréchange, les libre-échanges, etc. Donc il faut des réponses qui prennent en compte les véritables besoins. C'est pour ça que nous, ce que nous proposons, c'est une politique qui gouverne par les besoins. Les besoins sont lesquels? Sont que dans une urgence sociale, on a besoin de reconstruire ce qui a été détruit. Les services publics ont été une réponse où justement, à un moment, la France a été particulièrement détruite. Je pense notamment lors de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu inventer ces services publics, il a fallu planifier pour pouvoir apporter les réponses qui étaient nécessaires. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que ça. Planifier pour pouvoir répondre aux besoins nécessaires. Les besoins nécessaires sont les services publics, remettre l'éducation au niveau où elle doit être, remettre l'hôpital au niveau où il a été. Et rien que ça, je ne parle pas bien évidemment du SMIC, de l'augmentation des salaires, ou la retraite. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que on subit une destruction de tout ça. Et Jean-Luc Mélenchon a fait la liste, et elle est effrayante. Quand on nous dit qu'il y a environ 10 universités qui ont été détruites, quand il y a une douzaine d'hôpitaux qui ont été supprimés, quand il y a des milliers de kilomètres de voies ferrées qui n'existent plus, qui ont été supprimées, quand il y a eu 1700 bureaux de poste, enfin 45 maternités, on voit que la liste, elle est effrayante. C'est tout ça qu'on a perdu. Et aujourd'hui, quand on est face à des drames, eh bien, il faut pouvoir les mettre en relief avec une politique de destruction qui a organisé quelque part ces drames. Et donc, c'est ça où, justement, il faut que ça s'arrête. Il faut remettre une vraie politique qui gouverne par les besoins. Et là, et bien évidemment, de manière automatique, ça démarchandise. Mais il ne faut pas utiliser des grands mots sans comprendre le pourquoi, la raison, qu'est-ce qu'on veut derrière. Donc, derrière, c'est une urgence sociale, mais aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, une urgence écologique. L'urgence écologique, elle nécessite une bifurcation écologique de notre façon de consommer, de produire, et ça aussi, c'est nécessaire.
Mais reconstruire des hôpitaux, des universités, des maternités, des voies ferrées, ça coûte très cher, Julie Garnier. La France n'a jamais été aussi endettée de son histoire. Ouais. Comment fera Jean-Luc Mélenchon avec cet abîme qu'est la dette française?
Eh bien, ça, c'est toujours la façon qu'on a d'effrayer en disant « Ah, mais vous allez, ça va coûter cher. » Mais vous savez ce qui coûte cher aujourd'hui? Ce sont les ultra-riches, ce sont tous les cadeaux qui ont été faits et qui nous coûtent cher. Parce que ce déficit, on va dire, de la sécurité sociale n'arrive pas par hasard. Il arrive parce que des cadeaux, en contrepartie, ont été faits aux entreprises qui en ont profité pour faire quoi? Pour faire des records de dividendes. La France enregistre chaque année des records mondiaux de dividendes. L'un va avec l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand on investit dans les services publics, eh bien oui, on ne fera plus de cadeaux aux grandes entreprises parce qu'on va faire des cadeaux au peuple. On va lui offrir des soins, on va lui offrir des hôpitaux. Et donc, non, ça ne va pas coûter plus cher. Et je rappelle même que la France Insoumise a été la seule à organiser une émission de plus de 3 heures pour expliquer comment, justement, elle allait financer son programme et que ce programme est finançable. Juste un exemple. Pour assurer, s'il le faut encore. Regardez ce qui se passe en Espagne. On voit bien qu'en Espagne, eh bien, le fait de mettre de l'argent dans les salaires, de mettre de l'argent dans les services publics, ne coûte pas plus cher, bien au contraire, ça rapporte et c'est au contraire enclencher un cercle vertueux. Et il faut pouvoir raisonner de manière macroéconomique, avec voilà, non pas une vision individuelle, mais une vision macroéconomique. Plus on investit dans un pays, dans ses services publics, alors plus justement on peut avoir une économie vertueuse.
Alors Julie Garnier, je me rappelle un slogan de François Hollande qui disait « Le changement, c'est maintenant ». Est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, la vie va vraiment s'améliorer assez rapidement? Parce que les chantiers que vous évoquez sont quand même colossaux.
Ils sont colossaux, mais quand on parle de hausse des salaires, je pense que ça parle à tout le monde. Parce que quand il faut mettre de l'essence dans sa voiture, quand il faut faire le caddie, les courses, ben je peux vous assurer que si on vous dit à la fin du mois, vous allez avoir 100, 200, 300 euros de plus, je peux vous assurer que l'effet va être très immédiat. Donc non, on peut le faire, mais bien évidemment, il va falloir aussi penser aussi au long terme. Il y a du court terme, il y a du moyen terme, il y a du long terme. Mais il faut voir dans quelle direction ça va. Et pour le coup, je pense que tout le monde comprendra qu'à un moment, il faut arrêter de racketter ceux qui sont déjà à l'os et n'arrivent même plus à finir les fins de mois. On a un gouvernement qui a été jusqu'à interdire les découverts sur les comptes. Donc, on voit bien que ces gens ne comprennent rien finalement à la façon dont on survit. On survit en bas. Parce qu'ils ils sont complètement déconnectés et ils n'arrivent même plus à penser. Même cette politique de besoin, ils ne pourraient même pas pouvoir s'y mettre puisque les besoins, ils ne les comprennent même plus.
Le logement, notamment, ce sera un axe prioritaire?
Le logement, mais tous les besoins essentiels. Se nourrir, se loger, se soigner, s'éduquer, accès à la mobilité, ça aussi, c'est compliqué. Tout ce qui est besoin.
Alors, vous êtes élue à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne. Les transports du quotidien en Ile-de-France, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est si compliqué de se déplacer quand on vit en grande couronne?
Pour plusieurs raisons, c'est compliqué. La première, c'est parce que les transports n'ont jamais pu bénéficier d'une véritable politique d'investissement qu'elles méritent. Quand on compare les investissements qui sont faits dans les autres pays de l'Europe et ce qu'on voit ce qui est fait en France, la France est clairement en retard. Elles n'investissent pas comme elles devraient investir dans les transports. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on manque clairement de RER, de Transilien.
C'est à l'État de mettre de l'argent, pas seulement à la région?
Ah ben la région, de toute façon, elle tient ses financements de l'État. Enfin, elle a très peu. Enfin, c'est le versement mobilité comme principale ressource. On a aussi la taxe de séjour qui vient compléter. On a aussi les contributions des entreprises. Mais clairement, il faut revoir le CPER. Aujourd'hui, c'est le contrat plan État-région qui finance quelque part le plan, la politique régionale des transports. C'est l'État qui a la main là-dessus. Donc ce contrat plan État-région, il est insuffisant, c'est évident. Mais au-delà de ça, il y a aussi une politique de la rentabilité des transports qui fait que ces transports doivent avant tout être rentables avant de rendre service aux usagers. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que bien, quand on habite en ruralité, la rentabilité, ça devient tout de suite un peu compliqué. Parce que vous êtes moins nombreux, donc forcément, quand vous allez développer une ligne, qu'elle soit ferrée ou routière, eh bien, c'est plus compliqué de parler de rentabilité quand vous êtes quelques-uns plutôt que quand vous êtes à Paris ou en petite couronne. Donc, quand vous déplacez quelque part le curseur, la boussole des transports, eh bien, ça aussi, c'est un problème. Et ça, c'est la politique de Madame Pécresse. C'est pas quelque chose qu'on lui a demandé. Elle avait le choix entre soit de faire une régie publique des transports ou alors de tout mettre dans la concurrence. Elle a fait le choix de tout mettre dans la concurrence. Et aujourd'hui, juste, je terminerai là-dessus. Pourquoi c'est un souci? Parce qu'elle n'est pas capable de citer un seul exemple où la mise en concurrence s'est bien passée, que ce soit pour les conducteurs ou que ce soit pour les usagers.
L'arrivée de lignes de bus privées en Ile-de-France, est-ce que ça a amélioré le quotidien des usagers ou bien au contraire, ça s'est aggravé?
Ça s'est aggravé. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un seul exemple qu'on peut me citer où ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que ces entreprises, quand elles arrivent, elles veulent faire de l'argent. C'est normal, ce sont des entreprises, vous allez me dire. Sauf que ces entreprises, pour faire de l'argent, quelles sont leurs réserves? Elles ne peuvent pas augmenter le ticket de bus ou le ticket parce que les tarifs sont réglementés par Île-de-France Mobilité. Donc, elles sont coincées de ce niveau-là. Elles ne peuvent pas faire de bénéfices sur le matériel ou sur le carburant parce que c'est Île-de-France Mobilité qui impose le matériel. C'est la propriété d'Île-de-France Mobilité, donc de la région. Donc, le seul moyen pour lequel elles peuvent dégager de l'argent, c'est sur les conditions de travail des machinistes. Et on constate quoi? Que ces conducteurs de bus, eh bien, quand ils arrivent, ils perdent leur prime, ils perdent des centaines d'euros par mois sur leur salaire, ils perdent les plannings qu'ils avaient jusque-là, leur amplitude horaire ne fait qu'augmenter, les temps de pause ne sont pas rémunérés. Bref, vous voyez que quelque part, eh bien, bien évidemment, leurs conditions de travail se dégradent. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Et donc, on a des bus qui sont supprimés. Par jour, on a des milliers de courses qui sont supprimées. Comment voulez-vous que ça se passe bien? C'est impossible. Logiquement, c'est pas possible. Et c'est pour ça que Madame Pécresse continue à foncer dans un mur et qu'il va falloir lui reprendre le volant des mains sans faire de mauvais jeu de mots.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'éducation. Parcoursup, il faut le supprimer. Mais est-ce qu'il faut le supprimer avant d'avoir construit des universités ou bien vous faites tout en même temps?
On peut faire tout en même temps parce qu'il va falloir mettre les moyens. Il faut recruter des profs. Des profs, il y en a un. Dans l'enseignement. Il y en a beaucoup qui, justement, n'arrivent pas à devenir enseignants parce que les places sont extrêmement verrouillées. Je parle dans l'enseignement supérieur, puisque Parcoursup concerne l'enseignement supérieur. On peut faire autrement. Et d'ailleurs, on a fait autrement avant. Enfin, c'est pas comme si il y a toujours eu Parcoursup. Parcoursup, c'est une invention très récente, finalement. Moi, je viens d'une époque où, quand j'avais mon bac, bien, je pouvais aller à l'université et je pouvais aller dans n'importe quelle filière puisque j'avais mon bac. Et c'était une bonne chose, parce que s'il y avait eu Parcoursup à mon époque, je n'aurais pas pu suivre les études que je voulais. Parce que quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Moi, j'ai fait un bac scientifique. Je devais faire normalement des études de ce qu'on appelait des prépas physique chimie supérieure. Et puis pendant les vacances, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, finalement, je vais faire des études d'histoire. J'ai fait un bac scientifique. J'ai changé d'avis. S'il y avait eu Parcoursup, j'aurais même pas eu le droit de changer d'avis. Aujourd'hui, on empêche nos gamins de choisir ce qu'ils veulent faire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est injuste. Et je suis aussi maman. Et je peux vous dire que j'en ai mal au ventre de savoir que peut-être que mon fils, et peut-être que ses camarades, et peut-être que les autres gamins que j'ai au lycée, ne pourront pas faire les études qu'ils veulent parce qu'on a préféré faire des choix budgétaires plutôt que de respecter leur choix de vie. Vous voyez, quand on parlait de la liberté à disposer de soi-même, c'est ça. Ça devrait être une liberté fondamentale, quelque chose qu'il n'y a pas à négocier. Ces jeunes n'ont pas à négocier leur avenir. Ils ont le droit de choisir leur avenir. Et même s'ils se trompent, eh bien qu'ils se trompent. Mais parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Donc laissez-les choisir leur avenir. C'est leur vie, c'est pas la vôtre. Laissez-les. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point cette mesure est absolument injuste et doit être écartée.
Merci Julie Garnier, je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, oratrice nationale de LFI, référente de la France Insoumise en Seine-et-Marne et conseillère municipale à Moissy-Cramayel. Merci.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.